Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les oppositions politiques ont dénoncé en chœur hier soir la gestion de l'ordre public par l'exécutif en France. Débat national organisé sur BFM TV qui a aussi fait la part belle à la fiscalité, vous l'entendrez. Nous reviendrons également sur cette impasse dans l'Union européenne. Le Brexit pourrait être reporté. Bruxelles y consent mais demande aux députés britanniques de s'accorder sur le texte déjà négocié. Et puis nous dresserons le portrait du chef d'état-major des armées en Algérie, proche du président Bouteflika. Il a salué tout de même hier la mobilisation citoyenne, plutôt ambiguë comme réaction. Les chefs de partis politiques étaient donc rassemblés hier soir pour débattre. Représentants de la France Insoumise, du Rassemblement National, du Modem, du Parti Socialiste, du Parti Les Républicains et de La République En Marche, tous alignés sur le plateau de BFM TV pendant 2h30, ils ont présenté leurs solutions pour sortir de la crise des gilets jaunes. Sécurité, chômage, justice sociale et fiscalité. Voici ainsi une proposition d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
On a un gouvernement qui a choisi de prendre dans la poche de tout le monde pour financer la transition écologique. Eh bien, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Je veux un impôt sur la fortune vert, c'est-à-dire qui permette de faire en sorte que la transition écologique soit pour partie financée par l'argent que l'on reprend aux grandes fortunes. Ça permettrait, par exemple, de financer une partie d'un grand plan de rénovation thermique, faire en sorte que toutes ces passoires énergétiques soient rénovées. C'est 60% de la facture énergétique qui est réduite par ces travaux d'isolation. Et ça, c'est de l'argent en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus. Et ça permet de relier deux questions essentielles, à la fois la question écologique et la question sociale, parce qu'elles sont intimement liées.
Mais la solution n'est pas dans la création de nouveaux impôts. Voilà ce qu'a répondu Stanislas Guérini de La République En Marche.
Je crois que ma proposition, elle est claire. Il faut qu'on continue à baisser les impôts des Français. C'est ce qu'on fait depuis le premier jour de ce quinquennat. Je suis venu avec un document très concret. C'est une feuille de paie d'un salarié qui gagne aujourd'hui 1 783 € par mois. Bien, grâce à la politique de baisse de charges qu'on a menée depuis le début du quinquennat, parce qu'il y a trop de charges qui pèsent sur le travail, ce salarié, il a gagné 400 € net sur une année. Ma proposition, c'est d'aller plus loin. C'est de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Bien, je crois que cette mesure, elle serait très attendue par les classes moyennes et elle correspondrait à l'engagement qu'on a eu, c'est de rendre de l'argent aux Français.
Des propos sur BFM TV hier soir, extrait pour nous par Rosalie Lafarge. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla. Elle concerne cette fois l'épisode du selfie qui le montrait avec une arme lors de la présidentielle, la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Alexandre Benalla devra aussi s'expliquer sur des violences volontaires en réunion en marge du défilé du 1er mai dernier à Paris. Notons ce matin que le Sénat décidera de saisir ou non la justice dans cette affaire et d'inculper ou non trois hauts responsables de la présidence. Quatre associations accusées de faire la promotion du djihad armé vont être dissoutes en France. Le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'annonçait hier. Les structures en question sont basées dans le Nord, à Grande-Synthe. L'une d'elles est le centre Zara France. Zara France, elle est proche du pouvoir iranien, du Hamas et du Hezbollah. Elle va, c'est sûr, perdre en influence. C'est ce qu'estime le chercheur et consultant sur les questions islamistes, Romain Caillet.
Interdire des associations, ça limite leur capacité à avoir une présence dans l'espace public. Dans le cas spécifiquement du centre Zara, le fait qu'ils soient chiites, déjà, ça les coupe d'une grosse partie de la communauté musulmane. Ce qui leur permet de recruter, c'est justement leur présence dans l'espace public, d'apparaître comme le fer de lance de la lutte anti-sioniste. Et un certain nombre de jeunes qui connaissent pas le Hezbollah, qui n'ont pas de sympathie particulière pour le régime iranien, vont, par sympathie pour la cause palestinienne, pouvoir rejoindre ce genre de mouvement sectaire par la suite. C'est pas comme les salafistes qui sont présents dans toutes les mosquées, plus ou moins en France, de manière diffuse. Dans toutes les mosquées, il y a toujours un salafiste dans un coin ou quelque chose, parce que c'est des lieux de culte pour sunnites. Là, le fait que ce soit des chiites, ils fréquentent pas les mêmes lieux de culte que les sunnites. Un musulman moyen en France, il a relativement peu de probabilité de se retrouver à entendre un discours pro-iranien, si ce n'est via le cadre des activités politiques qui sont menées dans l'espace public par le centre Zara.
Romain Caillet interrogé par Maxime Fayol. Les sages du Conseil constitutionnel doivent dire aujourd'hui si les tests osseux sur les jeunes migrants sont constitutionnels. Des tests controversés pour déterminer si les migrants sont mineurs ou majeurs. Un bref report du Brexit est possible, à condition que les députés britanniques approuvent l'accord de retrait négocié entre Theresa May et Bruxelles. Voilà ce qu'a répondu Donald Tusk, le président du Conseil européen. Donald Tusk, voilà ce qu'il a répondu à la première ministre britannique hier. Elle a officiellement demandé hier un report de 3 mois du Brexit jusqu'au 3 juin. Si aucun accord n'est trouvé, va-t-on vers un Brexit dur ? Sylvain Kahn, géographe et professeur à Sciences Po, n'y croit pas. Selon lui, Bruxelles non plus. Il s'explique au micro d'Audrey Dumas.
D'abord, il y a 48% des citoyens britanniques qui avaient voté à l'époque contre le Brexit. Et ceux-là, dans leur ensemble, sont plutôt pour un Brexit doux, un Brexit soft, un Brexit encadré. Et donc l'Union européenne sait très bien qu'elle peut s'appuyer, si j'ose dire, sur ces personnes-là. Et par ailleurs, il y a une minorité, certes, mais une forte minorité au sein du Parlement britannique qui est pour cet accord. Donc en réalité, on voit aujourd'hui une espèce d'alliance tactique entre l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 plus la Commission et le Parlement, le gouvernement de Madame May et une minorité, une grosse minorité du Parlement britannique pour faire en sorte que finalement cet accord puisse être accepté. Donc dans ce cadre, l'Union européenne peut tactiquement dire on est prêt à accorder un délai supplémentaire à Madame May à la condition que vous nous donniez des certitudes et des garanties sur le fait que vous allez bien finir par voter ou faire ratifier en l'occurrence cet accord.
Le bras de fer continue donc alors que débute ce jeudi un Conseil européen qui sera évidemment dominé par la question du Brexit. Quand le parti au pouvoir et l'armée courtisent les manifestants, cela se passe en Algérie. Un dirigeant du Front de Libération Nationale, le FLN, et le chef d'état-major de l'armée, tous les deux ont salué hier les manifestants qui défilent depuis près d'un mois pour exiger un changement au pouvoir, donc le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'état-major est le général Ahmed Gaïd Salah, l'un des fidèles du président Bouteflika. Il a donc pourtant salué les intentions pures du peuple algérien. Hier, à quel jeu joue ce militaire bourru ? Son portrait est signé ce matin Christian Chesneau.
Ahmed Gaïd Salah est un pur produit du sérail politico-militaire qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance. Originaire d'un village des Aurès, il s'engage dès l'âge de 17 ans dans les maquis du FLN. Formé dans une école d'artillerie soviétique, il va grimper tous les échelons de la hiérarchie militaire. Commandant des forces terrestres en 1994, il se retrouve plongé au cœur de la guerre contre les islamistes. En 2004, il profite de la mise à l'écart du chef d'état-major Mohamed Lamari, hostile à la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, pour atteindre le sommet de l'armée et ne plus le quitter. Depuis, il navigue dans le sillage du président. « Je serai au service du Moudjahid Bouteflika jusqu'à la mort », aime-t-il à répéter. Ce n'est pas une personnalité charismatique, c'est un homme autoritaire qui aime les longs discours. Il n'est pas là pour se faire apprécier de la population, nous confie un observateur local. Amateur de bonne chair et gros fumeur, Ahmed Gaïd Salah est réputé et craint pour ses terribles colères. Tout au long de sa longue carrière, au cœur de l'état profond algérien, il a eu tout loisir de placer ses hommes de confiance et d'éliminer ceux qui lui faisaient de l'ombre. Alors que son mentor, Abdelaziz Bouteflika, s'accroche désespérément au pouvoir, le vieux général âgé de 79 ans a aujourd'hui la lourde tâche de gérer une transition politique à haut risque.
Partons maintenant au Gabon, où l'exemple algérien pourrait faire des émules. Car au Gabon aussi, le chef de l'État, Ali Bongo, a été victime d'un AVC en octobre dernier. Depuis, un collectif citoyen s'est créé et il donne jusqu'à la fin du mois aux autorités pour reconnaître la vacance du pouvoir, Valérie Crova.
Appel à agir, c'est le nom de ce collectif de 10 personnalités. Son but, dénoncer ce qu'elles estiment être une imposture. La Cour constitutionnelle a en effet utilisé un artifice en ajoutant un alinéa au texte de la Constitution qui crée la notion d'indisponibilité temporaire, sans préciser la durée. Début janvier, une poignée de militaires a tenté de profiter du vide au sommet de l'État gabonais. Le putsch a tourné court, mais l'absence d'Ali Bongo continue d'alimenter les rumeurs sur ceux qui gouvernent réellement ce petit pays d'Afrique centrale. Jean-Gaspard Toutoumaï est l'un des signataires de cet appel à agir.
La présidence de la République aujourd'hui a un titulaire qui ne remplit plus les charges de la fonction. Les conseils des ministres ne se tiennent plus. Tous les actes du président de la République ne sont plus posés depuis le mois d'octobre dernier. Nous avons eu la sagesse de donner un mois aux institutions pour se ressaisir. Un mois, c'est suffisant pour que le Premier ministre ou le Parlement puisse saisir la Cour constitutionnelle pour que cette dernière constate la vacance de la présidence de la République.
Le collectif a posé la date du 31 mars comme ultimatum. Si d'ici là, rien n'est fait, les signataires qui espèrent rallier une majorité de Gabonais n'excluent pas de prendre la rue. Le gouvernement a quant à lui mis en garde contre les appels à la désobéissance civile et à la rébellion.
La météo, ce jeudi en France, c'est assez simple, du soleil pour tout le monde. Quelques nuages près de la Manche, comptez 10 à 15 degrés ce matin, 14 à 18 cet après-midi.